Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver ce matin dans ce nouveau numéro des Paroles aux Auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Okapi. En RDC, selon le programme national de transfusion sanguine, les dons bénévoles de sang est passé de 11% en 2000 à 36% en 2024, soit une hausse de 25% en l'espace de 24 ans. Ces chiffres ont été dévoilés par les directeurs de ce programme en marge de la journée mondiale du don de sang célébrée les 14 juin de chaque année. Cette journée est donc l'occasion de sensibiliser la communauté internationale sur les dons bénévoles de sang, un geste qui sauve des vies. En RDC, les statistiques du programme national des transfusions sanguines indiquent que sur les 100% des dons de sang collectés, 36% viennent des donneurs bénévoles, 60% des donneurs familiaux et 4% des donneurs payants. Et si on les espère, la RDC, à l'instar de nombreux pays africains, est confrontée à des difficultés énormes pour disposer suffisamment de sang dans les hôpitaux, faute de donneurs bénévoles. En revanche, le gouvernement et ses partenaires du secteur de la santé ne cessent de consentir des efforts pour garantir la sécurité transfusionnelle. Par ailleurs, suite à certaines croyances religieuses ou culturelles, il y a des Congolais qui refusent de faire un don de sang. Que pensez-vous du don bénévole du sang et que faire pour augmenter le nombre des donneurs bénévoles? En RDC, vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux Auditeurs. Pierre Dassinois est à la mise en onde de ce magazine de Blaise Chindani et Julie Feza Bongonda. À sur la réalisation et la coordination au micro, c'est Marcel Ngomombala. Toutes et à tous, elles sont en condition d'écoute de ce nouveau numéro des Paroles aux Auditeurs.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal Plus au canal 572 pour Radio Okapi. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bienvenue dans ce nouveau numéro de Paroles aux Auditeurs. Je l'ai dit, on va parler de la sécurité transfusionnelle, mais aussi du don bénévole de sang, ces gestes qui sauvent des vies. Et comme vous le savez, le 14 juin de chaque année est consacré à la journée mondiale du don bénévole de sang. Alors pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir dans ces studios Paul Kabamba, chargé de formation, recherche et développement au programme national de transfusion sanguine. Paul Kabamba, bonjour.
Bonjour, monsieur Massaï.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'en profite pour dire aussi merci à tous ceux et toutes celles qui ont déjà réagi sur la page Facebook Paroles aux Auditeurs, également à ceux qui se sont déjà inscrits pour intervenir en direct. Alors, les dons bénévoles de sang, si aujourd'hui on peut faire non seulement un état de lieu sur la sécurité transfusionnelle, mais si on doit d'abord parler des dons bénévoles de sang, on se rend compte que ce sont les chiffres qui ont été dévoilés par le directeur de ce programme, des programmes nationaux de transfusion sanguine, à marge de la journée des dons bénévoles de sang. On parle de 2000 à 2024, une hausse de 25% en l'espace de 24 ans. Et dans ces chiffres, on signale que sur les 100% des dons de sang collectés, 36% vient des donneurs bénévoles, 60% des donneurs familiaux et 4% des donneurs payants. Donc, sans que du côté donneurs bénévoles, il y a encore des efforts à fournir pour arriver à avoir, si possible, plus de donneurs bénévoles que de donneurs familiaux.
Effectivement, monsieur Marcel, l'OMS recommande que 80% des transfusions doivent provenir des donneurs bénévoles. Donc, vous voyez, pour passer de 36 à 80, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour qu'on arrive à atteindre cet objectif-là. Quand même, nous savons que, comme vous l'avez dit, de 2000 à 2024, il y a quand même une hausse, mais c'est une hausse qui n'est pas, qui n'est pas rapide. Parce que, dans 20 ans, si on pouvait atteindre même 70, ça pouvait être moins. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de facteurs qui bloquent, qui empêchent à ce que cette évolution soit effective et aller vers l'objectif de 80%.
Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut continuer davantage à sensibiliser la population par rapport à ces gestes qui sauvent des vies, les dons bénévoles de sang.
Effectivement, il faut continuer à sensibiliser. Comme le thème de cette année l'indique, c'est 20 ans de célébration de la journée mondiale des donneurs bénévoles. Merci à tous les donneurs de sang. Vous voyez, on a dit merci à tous les donneurs. Mais, et comme nous l'avons dit, comme vous l'avez suivi, vous l'avez si bien dit avec le discours du directeur, le PENTES a préféré cette année de ne pas faire une manifestation grandiose, mais faire des journées portes ouvertes. En fait, c'est une stratégie pour que même les donneurs qui donnent le sang, nous avons compris qu'il y a des informations qu'ils n'ont pas. Ils donnent le sang parce que, bon, par un coup, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas comment, ils donnent le sang, mais quand vous devez lui poser beaucoup de questions sur l'acte qu'il fait, en fait, il ne trouve pas, il ne donne pas beaucoup plus d'informations sur ce qu'il fait. C'est comme ça qu'on a vu, qu'on a dit que même ces donneurs qui donnent, même les curieux, les potentiels donneurs, du 14 juin jusqu'à la fin du mois, le programme organise des journées portes ouvertes. Donc, tout celui qui vient au programme, on va lui expliquer, mais on l'a constaté même ce jour-là, le 14, quand on a fait visiter tous les donneurs pour les expliquer les capacités techniques que le CNTS offre, on a compris qu'ils n'ont pas cette information. Or, s'ils ont cette information, peut-être ils peuvent aussi appeler les autres à faire cet acte comme eux le font.
Voilà. Si je me rappelle bien à l'époque, cette stratégie de sensibilisation, de proximité, où les équipes du programme national de transfusion sanguine partaient dans les églises, partaient dans les quartiers pour s'approcher davantage de la population et les inciter à faire le don de sang. Est-ce que la stratégie continue?
La stratégie demeure. On l'utilise, on va dans les églises, mais avec beaucoup plus de difficultés sur le plan financier. Parce que sensibiliser une communauté à changer son comportement du non-donneur au donneur, ça demande quand même beaucoup de moyens. Bon, bien sûr, des moyens financiers, oui, mais beaucoup plus les moyens qu'il faut suragir sur le comportement en fait, des gens chez qui vous donnez l'information. Je vous ai dit ici qu'il y a des donneurs qui ne comprennent pas, qui n'ont pas l'information sur ça. Moi, je peux paraphraser un de nos ministres qui est revenu, bien sûr, son Excellence Monsieur Patrick Muyaya. Il avait dit qu'il faut changer les narratifs. Il faut que les donneurs comprennent que ce n'est pas le CNTS qui les aide. C'est eux qui aident la population. Alors, s'ils comprennent que le CNTS n'est qu'un moyen, le PENTES n'est qu'un moyen de venir prendre quelque chose qui est en eux, ils ne savent pas donner ces liquides-là s'ils ne passent pas par le prélèvement. Donc le CNTS les aide, eux, à sauver des vies humaines. Mais ces narratifs-là, il faut que les gens comprennent. Parce que si on comprend, on dit que non, nous donnons le sang on le vend, ils ont l'argent. En tout cas, la stratégie aura beaucoup plus de difficultés pour convaincre certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, nous donnons notre sang, on le vend. Bon, moi, j'ai toujours dit, si on prend la simple formule qu'on avait à l'école primaire, prix d'achat et prix de vente est égal à prix d'achat plus bénéfice. Nous avons payé ce sang à combien? Pour qu'on mette quel bénéfice? Oui. Pour avoir quel prix de vente?
Il faut d'abord se dire que c'est un geste qui sauve des vies. Et selon nos sources, au cours des dernières années, il y a 545 000 femmes qui ont été sauvées et 290 000 enfants de moins de 5 ans qui ont été sauvés grâce au don de sang.
Effectivement. C'est énorme.
C'est énorme. Mais maintenant, en principe, pour avoir plus de sang, pour que le banque de sang dans les hôpitaux soit approvisionné, donc l'idéal c'est d'avoir plus de donneurs bénévoles de sang.
Effectivement.
Donc, il faut davantage continuer à sensibiliser davantage, par rapport à ça.
Davantage
continuer à sensibiliser. Parlons un peu de la sécurité transfusionnelle, parce que là également, il y a des efforts qui ont été menés par le gouvernement et ses partenaires dans le secteur de la santé pour arriver à sécuriser tout ce qui est lié à la transfusion sanguine. Est-ce qu'on peut parler des efforts qui sont menés par rapport à la sécurité transfusionnelle?
Effectivement, comme le CNTS utilise deux types de stratégies. La stratégie des bases,
c'est le Centre National des Transfusions Sanguines, pour ceux qui ne savent pas. Oui.
Ok, merci. Ils utilisent la stratégie des bases et des stratégies de soutien. Dans les stratégies des bases, il y a l'approvisionnement réactif et consommable de la sécurité transfusionnelle, les équipements normés pour la sécurité transfusionnelle, et puis la mobilisation de la communauté au don de sang. Dans les stratégies de soutien, nous avons l'assurance qualité, la formation du personnel, la supervision et ainsi de suite. Mais quand vous voyez toutes ces activités-là, il y a des défis énormes. Mais heureusement, comme vous l'avez si bien dit, le gouvernement fournit beaucoup d'efforts, d'énormes efforts pour arriver à appuyer au moins son programme, qui est le Programme National de Transfusion Sanguine, à réaliser certaines activités. Je vous prends pour exemple, pour l'année, parce que pour le moment, avec le programme de la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés, la CSU, la couverture santé universelle, utilise certaines structures qui appuient en fait cette stratégie. Nous avons eu, avec les fonds de la promotion de la santé, ils ont dit, parce que comme l'expérience avait commencé à Kinshasa, on dit qu'on voit un peu ce qui se passe dans les structures sous programme de la gratuité de la maternité. Et le fonds de promotion de la santé a donné des fonds au programme pour réaliser d'abord les états des lieux, parce qu'on doit savoir ce qui se passe dans toutes ces maternités-là sur le plan de la sécurité transitionnelle. Après l'état des lieux, effectivement, on va découvrir un besoin en formation. On doit former ces gens-là pour la pratique transfusionnelle. Et après la formation, nous avons même le fonds pour l'organisation des collectes.
Parce qu'il faut le dire, pour les maternités, on sait que parmi le cause majeure de décès maternel, ce sont les hémorragies. Donc il faut avoir suffisamment du sang dans les maternités pour faire face au cas d'hémorragie.
Et puis les gens pensent que les hémorragies, c'est après l'accouchement. Non, il y a des hémorragies, comme on dit, des hémorragies en péripartale et en postpartale. Donc quelqu'un peut avoir la grossesse, fait des hémorragies. Il peut y avoir des pathologies qui peuvent faire ce qui fait les hémorragies pendant la grossesse. Il faut intervenir. Il ne faut pas attendre qu'il accouche. Bon, bien sûr, c'est une étape. Effectivement, les hémorragies du postpartum...
C'est-à-dire après l'accouchement.
Après l'accouchement. Et nous avons beaucoup de pertes de vie humaine des femmes parce qu'il n'y a pas de sang. Et c'est comme ça. Nous saluons le programme du chef de l'État sur la gratuité de la maternité, parce que au moins les fonds sont là pour que toutes les structures qui sont sous programme, quand il y a un problème de transfusion, au moins que la femme ne puisse pas mourir par manque de sang. Donc nous avons fait l'état des lieux, nous avons fait les formations et on va faire les collectes, bien sûr, pour approvisionner certaines structures en unité de sang pour arriver à juguler quand même ce problème-là des hémorragies du postpartum.
Voilà, on va poursuivre avec vous, Paul Kabamba, chargé des formations recherche et développement au programme national des transfusions sanguines. Pour l'instant, on va ouvrir le standard. Il y a déjà des auditeurs qui aimeraient bien intervenir. Jérémy Mamba qui nous appelle depuis Lubumbashi, Marcel Matisse qui est à Kinshasa, mais aussi Peter Maboudi qui est à Kinshasa. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui du don bénévole de sang en marge de la journée mondiale du don de sang célébré le 14 juin de chaque année.
Parole aux auditeurs par internet pa@radiookapi.net.
Jérémy Mamba nous appelle depuis Lubumbashi. Je pense bien Lubumbashi. Jérémy Mamba, vous êtes à Lubumbashi, c'est bien ça? Bonjour.
Oui, effectivement. Bonjour, monsieur Marcel. Bonjour également à l'invité. Ah, certes, ici, il faut encourager les prouesses de notre pays, n'est-ce pas, en matière sanitaire dans la couverture des transfusions sanguines. Insuffisante soit-elle, cependant bénéfique, n'est-ce pas, pour sauver, n'est-ce pas, les vies de plusieurs. Alors, ici, nous voudrions, parce que vous savez que plusieurs patients ainsi que d'autres cas sont confrontés, entre autres, pendant ces moments, les paludismes semblent un peu gagner du terrain. Et il y a aussi les accouchements par césarien et aussi des opérations chirurgicales. Tout ça amène que la diminution des sangs soit considérable et il faut à tout prix qu'on puisse un peu résoudre ce problème. C'est pourquoi nous disons que notre pays, à travers les structures sanitaire, doit sensibiliser la population, surtout mieux communiquer. Ce qui manque, c'est mieux communiquer pour, n'est-ce pas, attirer tous ceux-là qui peuvent amener les sangs bénévolement. Ça peut aussi amener quelque chose de plus, parce que vous savez que la transfusion sanguine constitue vraiment un gage important pour la vie de plusieurs. Et aussi, si nous voulons faire cette démarcation entre les donneurs bénévoles du sang ainsi que les donneurs familiaux et ceux rémunérés, vous trouvez que la marge est considérable. Moi, je pensais que peut-être si la pyramide est renversée, nous voulons peut-être voir entre les lignes, peut-être que les donneurs bénévoles, parce que au moment où les donneurs bénévoles engagent un pourcentage, un taux élevé, vous savez, il y aura peut-être la garantie en cette matière de sécurité, parce que il y aura disponibilité en banque. dans les hôpitaux. Et lorsque les autres viennent, ceux des familles, ainsi que ceux qui attendent de recevoir quelque chose, lorsqu'ils amènent les sangs, c'est peut-être au moment où le patient est dans l'état de gravité. On amène les sangs, le temps de pouvoir examiner les choses, on assiste à l'irréparable. Or, il fallait peut-être sauver au préalable. Mais lorsqu'il y a les sangs en banque, alors vous allez voir qu'on va sauver des vies et tout simplement, il faut nécessairement qu'on puisse un peu donc élargir l'espace, sensibiliser et donner les biens fondés à ces gens-là qui donnent le sang pour le bien de notre pays parce qu'ils jouent le rôle de patriotes et ils sauvent les vies pour l'intérêt de notre pays. Lorsque une vie est sauvée, c'est un individu qui contribue au développement du pays. Et ils doivent comprendre que en donnant le bénévolement, le sang, on contribue, on construit le pays en même temps avec ceux-là qui sont à la gestion du pays. Parce que si les taux, donc c'est-à-dire les taux de ceux qui donnent bénévolement semblent être en dents de scie, c'est que les choses ne peuvent pas rassurer. À l'opposé, cela aura de l'impact négatif sur tous les systèmes sanitaires dans son ensemble.
Voilà, vous
et
faites
parce que ouais. du point de vue qualitatif et sécuritaire, parce que vous allez voir que il y aura des situations très compliquées, parce que nous voulons réellement que ceux qui sont en province, les coordonnateurs donc provinciaux en matière de sensibilisation doivent s'y mettre. Donc il doit travailler âprement de manière à ce que les gens puissent avoir ce bien fondé là de construire leur pays, de bâtir leur pays à travers ce qu'ils donnent comme sans bénévolement. Ça peut aussi sauver non seulement la vie des autres mais aussi indirectement ou directement des membres de leur famille, et ça peut amener à ce que notre pays puisse engranger un peu beaucoup d'avancées, parce que nous voulons que les taux puissent augmenter.
Voilà, merci. Merci, Jérémy Momba. Vous l'avez dit, vous avez insisté sur les dons bénévoles du sang. Vous avez également suivi, d'ailleurs, l'invité l'a dit, l'OMS recommande que 80% de sang transfusé qui sont dans les banques du sang proviennent plus de donneurs bénévoles. Ça permet aussi d'assurer une très bonne sécurité à transfusionner. Vous avez également dit, pour les donneurs familiaux, les temps de chercher du sang, ça peut aussi poser problème. Mais lorsqu'il y a déjà suffisamment du sang dans les banques du sang, cela permet de sauver des vies humaines. Voilà pourquoi on va pas arrêter de sensibiliser sur les dons bénévoles de sang et surtout de communiquer davantage. Merci Jérémy Momba d'avoir appelé depuis le Lubumbashi. Marcel Matisse, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Marcel.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour à notre invité, bonjour à tous les amis qui sont connectés à la fréquence de la paix.
Vous avez la parole, on vous écoute.
Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Vous savez, si on fait les statistiques, regarde de 2000 jusqu'à 2024.
Marcel, vous êtes dans un endroit très bruyant, hein, il y a beaucoup de bruit, et c'est où vous vous déplacez, où vous essayez de dynamiser votre voix, parce que là on n'arrive pas bien à vous saisir.
Oui, je disais, si on fait les statistiques qui étaient de 2000 jusqu'à 2024, atteindre au moins 36% de bénévoles, je pense qu'il y a encore un grand travail. De 2000 jusqu'à 2024, on pouvait aller même de 50%. Ça montre qu'il y a encore un grand travail sur le terrain. On regarde les 14 juin de chaque année, le monde célèbre cette journée. Mais il faut voir, même dans nos chaînes télévisions, on n'a pas dit quelque chose qui s'est passé même au niveau du ministère de la Santé, c'est une journée qui pouvait être là en train de sensibiliser les gens. Parce que les gens ont toujours des confusions dans leur tête, donner les sangs et croient que c'est quelque chose qui est mauvais. Il y a même ici, en République démocratique du Congo, il y a même des églises qui interdisent même de donner, qu'une personne peut donner les sangs pour sauver la vie d'une autre personne. On dénonce même des versets, il y a même des pasteurs qui prêchent sur ça. Mais je sais que si au niveau du ministère de la Santé, à travers cette journée, on pouvait sensibiliser partout dans toute la République, avec des gens en train de circuler partout en montrant même les avantages. Parce que quand vous donnez le sang, vous sauvez la vie d'une autre personne. Mais c'est autre. Et regardez même la façon dont nos frères qui sont dans des hôpitaux, quand ils arrivent, comment ils sont traités. Vous pouvez voir qu'il y a des sangs. Au lieu d'intervenir direct, il y a même des docteurs là qui disent il faut faire ceci, il faut faire cela. Les gens, la personne peut perdre même la vie. Dernièrement, quand je venais au niveau des campus vers Eric Lille, J'ai vu une personne qui a été jetée devant le psychiatre de la police. Lorsqu'on a eu à chercher pour s'informer, on nous a dit que la personne était arrivée à l'hôpital, comme son cas était grave, on cherchait depuis lui mettre du sang. Mais comme à l'hôpital, on négligeait toujours avant de les faire donner de l'argent, en discutant là, la personne a perdu la vie. Le chef de cet hôpital-là, avec notre médecin, on a transporté la personne-là pour venir jeter au niveau de ce site-là. Et ils ont pris suite lorsque la police est descendue pour faire des vérifications. Je pense que c'est...
Voilà, on a compris, Marcel Matisse, il a également, vous revenez par rapport à ça, il faut davantage continuer à sensibiliser sur les dons bénévoles des sons. Merci Marcel Matisse d'avoir appelé depuis Kinshasa. On reste à Kinshasa pour écouter cette fois-ci Peter Maboudi. Bonjour Peter Maboudi.
Bonjour Marcel, bonjour à l'invité, bonjour à tous les invités de la Radio Capé.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup pour m'avoir associé à cet échange, Monsieur Marcel. Je commence par dire que le plus grand amour qu'on peut avoir envers son prochain n'est que celui de donner sa vie pour les autres. Donc, quand nous donnons le sang à nos prochains, à nos semblables, c'est le plus grand amour qu'on manifeste envers ces derniers. Je viens de suivre l'invité, mes prédécesseurs, Monsieur Marcel. Donner son sang pour sauver une vie de quelqu'un, ça vaut plus que ce qu'on peut prétendre avoir donné qu'on sort comme bien matériel. Mais il s'observe dans notre pays, comme mon prédécesseur de Lubumbashi l'a souligné, de constater que dans nos hôpitaux, M. Marcel, surtout à l'Institut de l'Intérieur, ils en souffrent. Pourquoi ils arrivent à consulter les membres des familles lorsqu'il y a des cas d'urgence qui nécessitent la perfusion, la transfusion du sang pour recourir aux membres des familles? C'est lorsqu'il y a un manque de sang disponible pour qu'on puisse intervenir. Et également aussi les conditions dans lesquelles nos hôpitaux à l'intérieur fonctionnent pour la conservation du sang des bénévoles. Donc ça pose toujours des problèmes sérieux. Je crois que l'invité qui est ici de l'organisation des structures sanitaires, s'ils peuvent arriver à penser pour les hôpitaux qui sont à l'intérieur, il y a même des centres de santé, des références qui sont ciblées pour poser les actes de la transfusion, mais qui n'ont pas de matériel pour conserver le sang, bien qu'il y a certains volontaires qui se manifestent pour donner le sang, mais dans quelles conditions le sang des donneurs bénévoles sont conservés? Donc, il se pose un problème de conservation à l'intérieur, bien qu'à Kinshasa, il y a des matériels de conservation de ce sang-là. Donc, je crois que l'effort doit être collectif, non seulement les sensibiliser, mais aussi les structures qui doivent conserver le sang. Lorsque le sang est conservé et qu'il y a un cas d'urgence, on peut recourir à ce sang-là au lieu de recourir aux membres des familles pour que ces derniers puissent donner le sang. Et également aussi un comportement qui s'observe à l'intérieur. Lorsqu'il y a les donneurs bénévoles du sang, ce sont les médecins ou les corps soignants qui exigent l'argent à la famille de la victime. Donc, nous avons le sang disponible, tout ça vous donne l'argent. Alors que le sang est donné bénévolement, mais il y a marchandage même de ce sang dans certaines structures sanitaires au niveau de l'intérieur. Je crois qu'il relève de la compétence du ministère de la Santé et de nous tous, la communauté, pour que, et surtout des corps soignants, de comprendre que l'idéal dans la santé, c'est de sauver des vies humaines. Et sauver une vie humaine n'exige pas au préalable avoir des moyens, des conséquences, tout ça. Bien que le soin est payable, mais que cela ne soit pas un objectif ou bien une instruction d'avance pour qu'on puisse sauver une vie. Sauver d'abord la vie et le reste, la famille pourra s'en occuper. Je crois que ce sont là les quelques éléments que je voudrais ajouter. En plus, surtout, j'insiste, l'amour qu'on peut manifester n'est que celui de donner sa vie pour les autres. Donner la vie pour les autres, c'est sauver des vies humaines, M. Marcel.
Voilà, merci Peter Maboudi pour tous ces aspects que vous venez de soulever. Vous avez évoqué notamment le problème dans nos hôpitaux à l'intérieur du pays où il y a manque généralement du sang dans les centres hospitaliers. pour faire en sorte que lorsqu'il y a demande du sang, qu'on puisse trouver du sang dans ces hospitaux. Et surtout, vous avez également insisté sur la conservation du sang qui a été dans les banques du sang. Voilà, l'invité pourra peut-être donner des précisions par rapport à cela, parce qu'on l'a dit, l'État fait des efforts pour ce qui est de la sécurité transfusionnelle, c'est-à-dire avoir du bon sang et du bon sang qui est bien et du sang qui est bien conservé. Merci Peter Maboudi d'avoir appelé depuis Kinshasa. On va écouter Amos Bissimwa qui a depuis Bukavu, et puis on va revenir à notre invité Amos Bissimwa. Vous êtes à Bukavu, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditrices et auditeurs de la radio Okapi, bonjour à l'invité présent au studio.
On vous écoute.
Merci bien. Au fait, j'étais d'abord à saluer le propos de mes prédécesseurs par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Ce qui est vrai, donner la vie à quelqu'un, c'est quelque chose de très louable. Et même la Bible le déclare. Mais par rapport à ce que nous débattons aujourd'hui, vous allez comprendre avec moi que le constat que tout le monde fait sur terre, c'est un constat amer par rapport aux donneurs bénévoles du sang. Je suis d'abord d'accord avec l'intervenant de tout à l'heure qui venait de dire qu'il y a un problème de conservation du sang. Et cela presque à travers toute la République. Même ici à Bukavu, c'est le même problème qui se pose. Est-ce qu'il y a des matériels capables de conserver le sang? Ça cause jusque-là un problème tellement sérieux. Si ce problème peut se poser au niveau de nos villes, à Kinshasa, à Bukavu et dans d'autres villes de la République, que pouvons-nous dire de la manière dont le sang est conservé dans les fins fonds de la République, dans nos territoires? C'est très grave. Je tiens à rappeler ici que depuis 2006, dans les 5 chantiers, il y avait la santé. Avec le slogan « Le peuple d'abord », on voit aussi la santé. Mais que font nos dirigeants avec ça? On constate avec regret que la santé est abandonnée à son triste sort. À part la conservation, il y a la vente du sang. Et c'est ce qui énerve beaucoup de gens. Ce qui énerve beaucoup de gens aujourd'hui, en constatant qu'ils ont bénévolement donné du sang, mais ces gens, à l'hôpital, les docteurs et autres, le personnel soignant, se permet de vendre le sang. Ça énerve beaucoup de gens. Et ceux-là qui étaient prêts à continuer à donner bénévolement, dit ça, ils se disent, comment nous pouvons être en train d'aider les gens bénévolement, mais le personnel soignant en profite pour gagner de l'argent.
Donc ce sont là des pratiques, ce sont là des pratiques qui découragent les gens à donner bénévolement le sang, c'est bien cela?
Justement, oui. Ce sont de telles pratiques qui découragent beaucoup de gens parce que ça ne se fait pas comprendre. Moi, je donne bénévolement du sang, mais un familier, un ami tombe malade, il arrive à l'hôpital, il faut qu'il donne de l'argent pour qu'on lui donne du sang. Ça ne passe pas. Et dans un état sérieux, si on était dans un état réellement gouverné et sérieux, on devait interpeller ces gens et la justice devrait se saisir de ce genre de cas. Troisième cas, il y a aussi la problématique des gens qui donnent le sang, parce que sous d'autres cieux, on devait créer sous forme d'un club de ces gens, et ils devaient même avoir des soutiens au niveau du gouvernement. Je donne un cas. Quelqu'un qui part donner du sang à l'hôpital, il va à pied. Il rentre à pied, et juste après avoir soutiré du sang, il n'a même pas un nido qu'il peut prendre pour récupérer. Ça décourage aussi. Mais si, dis-moi, on était dans un État gouverné, un État qui a des dirigeants qui savent qu'est-ce qu'ils doivent faire pour le peuple, on devait créer une structure pouvant encadrer ces gens pour les motiver davantage. En fait, qu'il y ait d'autres qui vont aussi souscrire, qui vont aussi se manifester en voulant continuer à donner du sang. Mais ce qui n'est pas le cas chez nous, c'est-à-dire, moi, j'ai lancé un appel à nos dirigeants, surtout au ministère de Santé, si du moins, et je sais qu'il existe, mais est-ce qu'il fait valablement son rôle? C'est plus que politique, au lieu que ça se manifeste sur le terrain. On devait vraiment bien organiser ce domaine, parce que nous ne cessons d'encourager ces gens qui acceptent de donner la vie pour les autres.
Voilà, merci.
C'est un geste tellement louable Et ce n'est pas pour n'importe qui, voilà pourquoi ces gens méritent soutien. Et il faut qu'il y ait du sérieux dans ce sens.
Merci Amos Bissimwa depuis Bukavu. J'avais dit qu'on va passer à notre invité et puis continuer avec le standard. Mais il y a Marie-Paul Awa qui nous appelle depuis Kisangani qui insiste de passer maintenant. Alors on va accorder la parole à Marie-Paul Awa depuis Kisangani. Bonjour Marie-Paul.
Oui, bonjour monsieur le journaliste et bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous avez la parole Marie-Paul Awa.
Oui, monsieur le journaliste, il faut dire logiquement que la hausse de 25% en espace de 24 ans des dons de sang en République démocratique du Congo n'est pas significatif, et bien, je dis par rapport aux besoins en présence des patients, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de sang. Alors, on trouve que vraiment cet accroissement n'est pas beaucoup plus significatif. Mais il est aussi vrai que quand est tenu des examens du préalable, parce que tout le monde ne peut pas donner l'état, il faudrait que, avant de donner ces dons-là, celui qui accepte de donner son sang, doit passer par des examens au préalable. Et ces examens sont nombreux au point que beaucoup de gens qui devraient donner ces dons hésitent un peu par rapport à leurs problèmes de santé. Ça, c'est un élément aussi à prendre en compte. Et en plus, nous, les Congolais, sont ceux qui n'ont pas aussi accès libre aux soins de santé. Il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas des laboratoires sophistiqués, justement. Je viens de dire à mon ici que il se pose un véritable problème de conservation de ces salles-là. Et c'est parmi aussi des éléments qu'on doit prendre en compte. Il y a aussi une forte propension. Vous savez, notre pays, c'est un pays qui vit dans l'ambivalence des religions. Il y a quand même cette culture-là, les uns, notamment les témoins des gens, les autres, qui n'acceptent pas cette histoire de transfusion de sang et de suite. Et puis cette tendance-là amène aussi beaucoup à hésiter. Si quelqu'un déjà n'accepte pas qu'il peut offrir le sang, et pour qu'au cas où les patients en ont besoin, ils s'en servent, et il ne va pas aussi aller gratuitement. Voilà. Voilà, cette situation aussi met le pays un peu à une situation très compliqué.
Voilà, merci.
Autre élément dont on doit aussi comprendre, oui. Mais il y a aussi ces problèmes, je vais terminer, il y a aussi ces problèmes aussi, c'est que les gens qui donnent gratuitement, mais une fois qu'ils...
Marie-Paul n'est plus en ligne, mais on a compris l'essentiel de son intervention. Elle a insisté sur des pesanteurs religieuses et culturelles qui font que certaines personnes ne sont pas intéressées pour faire les dons bénévoles de sang. Et puis il est revenu également sur le problème de conservation du sang dans les hôpitaux. Merci Marie-Paul Awa d'avoir appelé depuis Kisangani. Avant d'accorder la parole, notre invité, et je m'en vais lire deux réactions sur la page Facebook par aux auditeurs. Il y a Augusta Ilunga qui nous écrit depuis Kananga. À mon humble avis, donner son sang pour dire qu'on sauve des vies n'est pas nécessairement utile, car la vie sacrée d'une personne reste dans les sangs donnés par les donneurs. Comment celui qui a fait que ce sang existe échoue? Comment le remettre lorsqu'on met du sang? Là, je comprends pas très bien. Mais de toute façon, c'est parmi des réactions où on essaie de ne pas encourager les gens à donner du sang, tel que j'ai compris. Parce que comme on l'a dit, il faut suffisamment communiquer. Il y a beaucoup des idées reçues par rapport au sang. Il y a ceux qui estiment même que l'âme se trouve dans le sang. Et si une personne est considérée comme une sorcière, lorsqu'on vous transfuse son sang, peut-être qu'aussi vous aurez de la sorcellerie. Voilà, beaucoup d'idées reçues autour de cela. Il y a Marcel Mike qui nous écrit depuis Kananga aussi. La transfusion est sans danger, mais avant de l'accepter, il faut d'abord se renseigner sur ses avantages et ses inconvénients. Malgré que c'est un instrument médical de première importance, de nombreux médecins qui veulent la vie de leur malade n'hésitent pas à leur administrer du sang, car le sang, c'est la vie. Voilà, ça c'est notre réaction. Il s'agit de Marcel Maïk sur la page Facebook Parole aux auditeurs. On revient à notre invité Paul Kabamba. Vous avez suivi les interventions des uns et des autres, là, ceux qui ont insisté sur la sécurité sur la conservation du sang dans les banques de sang et sur aussi la pénurie qui existe souvent dans les banques du sang à l'intérieur du pays. Il y a ceux également qui estiment que les gens qui font gratuitement don de leur sang devraient en principe bénéficier de certains avantages. Il semblerait que ce n'est pas le cas. Et ceux qui décrit également certaines pratiques où on exige de l'argent avant de donner son sang bénévolement.
Ok. Merci beaucoup, monsieur Marcel. En fait, presque tous les auditeurs, tous les intervenants sont allés dans le même sens. Et si on doit se mettre à répondre à chaque intervenant, on risque de dormir ici. Mais je vais répondre d'une façon synthétique avec un schéma. Au centre de nos activités, il y a le malade. Mais il y a une triade qui agit sur le malade. Il y a le personnel des hôpitaux. Il y a le gouvernement, comme ils l'ont bien dit dans leurs interventions, et il y a la communauté. Cette triade doit faire de sorte que chacun, pour ce qui le concerne, puisse agir convenablement et efficacement par rapport à ses activités. Je prends l'exemple du personnel. Quand le personnel réagit très mal, il faut aller dans le personnel, former, communiquer pour qu'ils pensent, ils agissent de façon à ce qu'il puisse apporter solution aux malades qui a besoin de sang. Je prends la communauté là où il y a les donneurs bénévoles de sang. Beaucoup de gens ont dit ici qu'il faut une communauté, qu'il faut une organisation pour aider les personnes qui donnent tout ça. C'est comme ça que j'ai dit, quand je l'ai dit, qu'il faut changer de narratif. La communauté doit se prendre en charge. Et la communauté, si elle doit pas se prendre en charge, c'est donner des informations de sorte que la personne qui a besoin du sang qui est à l'hôpital puisse avoir un sang convenable. Quand le personnel demande de l'argent, vous, la communauté, comment il faut faire pour reconvertir les donneurs bénévoles? Parce que déjà, on dit ici qu'il y a beaucoup de donneurs familiaux, même vous avez dit 65%. Il faut qu'on cherche, la communauté doit faire un effort pour convertir plutôt les donneurs payants et plutôt familiaux en donneurs bénévoles. Moi, je prends toujours l'exemple de notre structure qui est à Bukavu. Je crois que la coordinatrice peut nous suivre. Je crois qu'ils ne savent pas que quand on construisait le CPTS, le centre provincial de transition du Nord Kivu. Là où il y a le centre actuellement, c'était une ancienne habitation, donc de l'OMS. C'est là que l'OMS, le bureau d'un ancien bureau de l'OMS. Quand il a eu ce bureau-là, à un moment donné, les autorités voulaient prendre ça pour d'autres usages. Parce qu'à Goma, 100% de dons de sang viennent de donneurs bénévoles.
Ah, c'est très encourageant.
À Goma, quand on parle de 36%, parce qu'il y a des provinces qui tirent vers le haut ces pourcentages, et il y a des provinces aussi qui tirent vers le bas. À Kinshasa, nous ne sommes pas à 36%, nous dépassons ces 50% de donneurs bénévoles. À Goma, 100% des dons de sang viennent de donneurs bénévoles.
Ça veut mener des études pour savoir qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de donneurs bénévoles à Goma.
À Butembo, parce qu'à Goma, la structure de Goma, il y a à Butembo, à Beni et à Rutshuru. Là, c'est pratiquement la même chose. Mais quand on voulait ravir, comme on le dit par les autorités, cette parcelle-là, les donneurs de Goma ont dit on ne donne pas le sang. Et là, le stock de sang dans toutes les banques de sang ne faisait que diminuer. Et on s'est retrouvé un jour, il n'y avait pas de sang dans toute la ville de Goma. On a fait appel à la coordinatrice. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Non, les donneurs ont refusé de donner le sang. Pourquoi ils ont refusé de donner le sang? Oh, parce que vous ne voulez pas qu'on construise leur CPTS à l'endroit qu'ils ont choisi. Ah, c'est quoi? Et l'autorité sur le champ a donné un papier pour que on remette cette parcelle au CPTS Goma. Vous voyez que non, la communauté a un rôle à jouer. Quand on voit le ministère, bien sûr, il est haut placé. Le ministère ne va pas aller dans la communauté, bien sûr. Il y a tout ce qu'il y a comme relais communauté. Mais c'est la communauté elle-même d'abord qui doit se dire, non, nous pensons que nous, pour ici, chez nous, tous les donneurs, nous, la communauté, on va commencer à donner des gens gratuitement. Et voici maintenant nos conditions. Les hôpitaux, voilà ce que vous devez faire. Les malades, voilà ce que vous devez faire. Et cette triade-là, si on pense qu'on jette de pierres à une composante de cette triade, on ne trouvera pas de solution. Cette triade-là, on doit agir en communion. Donc, le personnel, l'État congolais et la communauté, on doit agir sur le malade. Parce que les gens doivent savoir que les malades viennent de la communauté. C'est la communauté qui sauve une personne de sa communauté. Le personnel vient de la communauté. Le ministère, ce sont les agents de la communauté. Maintenant, si on commence à se jeter des pierres, oh, c'est le ministère, oh, c'est la... Non, non, c'est nous tous.
Mais vous avez suivi, il y a ceux qui ont dit, c'est vrai, c'est un geste d'amour, c'est un geste qui se fait pour sauver des vies humaines, mais ils se disent quand même, c'est vrai, même si c'est sans intérêt pécunier, mais en retour, il aurait fallu quand même que ceux qui donnent bénévolement leur sang puissent avoir certains avantages.
Ici, vous savez, ici à Kinshasa, nous avons fait... C'est le problème, c'est que le plus grand problème, c'est le problème de la communication.
Oui.
Ici, à Kinshasa, les donneurs s'étaient réunis en congrès pour faire ce qu'on appelle la charte du donneur, qui comprend le droit et les devoirs. Parce que le donneur doit avoir aussi un devoir. Il doit savoir que, comme je sauve des vies humaines, bénévolement, il faut que je fasse tout pour que mon sang garde sa sérologie négative pour ne pas créer des problèmes à notre malade. On a fait la charte des droits et des devoirs du donneur. Bien sûr, parce qu'on n'a pas encore réuni tous les donneurs de toute la République, parce que ce que Kinshasa a prévu, peut-être certaines données ne sont pas correctes pour l'Est, pour Lubumbashi ou bien pour Goma. Donc il faut qu'on arrive à un moment donné à fédérer tous ces gens-là pour que, en fait, cette charte-là, si on la mettait sur le marché et qu'on donnait à l'Assemblée nationale, ou bien tout ça, et qu'ils disaient, là, au moins, nous tous, nous serons dirigés par quelque chose, un texte qui nous régit et que nous allons suivre ça. Mais moi, j'insiste beaucoup sur la triade. Le malade est au centre de tout. Et quand vous regardez, nous tous, nous agissons. Mais les comportements des uns et des autres font que on n'arrive pas à donner satisfaction à notre malade parce que le personnel veut l'argent, les donneurs ne veulent pas donner, le ministère ne veut pas... Non, en fait, c'est un tout. On va tout faire pour que agissons sur les trois éléments de cette triade-là pour que, bien sûr, au-dessus de cette triade-là, c'est le ministère de la Santé, bien sûr, qui doit faire assez qu'on fédère les programmes, parce que le ministère, c'est les programmes, qui doit faire assez qu'on fédère tous ces gens-là pour qu'on arrive quand même à trouver une solution pour notre malade qui est dans les besoins. On s'écrit, on se bat, mais en fin de compte, comme l'autre intervenant a dit, quelqu'un est mort parce que on a tamponné, il a saigné, il arrive à l'hôpital pour donner le sang, on demande de l'argent. Tout ça, c'est que ce sont des histoires qui se passent dans ce pays, mais nous devons faire un effort pour que nous tous, nous soyons de commun accord, agissons pour que notre malade qui a besoin de ce sang-là puisse avoir un sang sécurisé.
Voilà. Alors, on a parlé pour la conservation du sang, mais je sais qu'il y a des efforts qui sont menés par rapport à la conservation du sang, mais vous avez suivi, les gens disent qu'à l'intérieur du pays, il y a peut-être des problèmes de conservation du sang dans les banques du sang. Qu'est-ce que vous en pensez?
Effectivement, c'est un grand défi en matière des équipements pour la conservation. Comme on sait que, pour le moment, il y a des provinces où il n'y a pas la source d'énergie très compliquée, il n'y a pas l'électricité, et c'est comme ça que le programme a opté pour l'approvisionnement, l'acquisition des frigos type banque de sang, mais de type solaire. Mais nous savons que le gouvernement fournit des efforts, mais pour atteindre, parce qu'il y a au moins 516 zones de santé, et selon la stratégie du programme, c'est que dans chaque zone de santé, on met un hôpital et un matériel au niveau de l'hôpital général de référence, et on met 4 matériels dans les centres de santé de référence éloignés. Donc si on prend 515 fois 5 juste pour les frigos, nous sommes autour de 2900 et quelque chose les frigos. Mais jusque-là, le gouvernement, il y a des coins qui avaient reçu le matériel avant 2014. Parce qu'il y avait un moment donné où le gouvernement, avec ses partenaires, le Fonds mondial, la Banque mondiale, avait quand même équipé beaucoup de zones de santé. Mais c'était avant 2014. Ils ont déjà plus de 10 ans. C'était des systèmes avec panneaux solaires, batteries, mais 10 ans après, c'est devenu vétuste. Il faut changer.
Il faut changer, il faut renouveler tout ça.
On a fait encore de 2014 à 2004. On a donné aux autres. Donc il faut encore revenir pour les gens qui avaient reçu les matériels avant, qu'ils puissent être dotés encore d'autres matériels. Le gouvernement fait des efforts. Le PENTES, pour son fonds, pour ses activités chaque année, le PENTES doit bénéficier au moins de 9 millions de dollars pour faire ça. Mais à travers le fonds de contrepartie, nous avons reçu des intrants à travers les partenaires, la Banque mondiale, partenaire du gouvernement, avec les PDCS qui prennent 12 provinces, on a reçu certains équipements. À travers les fonds de la promotion de la santé, on recevra d'autres équipements. Donc ce sont des équipements qui viennent par à-coup, mais le pays est très très vaste.
Le pays est très très vaste. On va prendre le 3 derniers auditeurs et puis on va revenir à notre invité pour conclure. Docteur Mikaël Bolingo, vous nous appelez depuis Goma. Bonjour docteur Mikaël. Docteur Mikaël n'est plus en ligne. Mais son... Docteur Mikaël, oui, vous êtes en ligne depuis Goma.
De m'avoir associé à cette...
Docteur Mikaël, essayez de vous déplacer. Apparemment, on vous attend très mal. Essayez de vous déplacer parce qu'on est très heureux d'avoir un médecin. Il y a des intervenants qui ont dit qu'il y a des pratiques aussi à décrier dans les chefs de certains médecins qui demandent de l'argent. Il semblerait, je ne sais pas si ce sont des infirmiers ou des médecins qui demandent de l'argent aux personnes qui viennent pour faire don de leur sang. Docteur Mikaël, vous m'attendez, ça va mieux maintenant? Vous pouvez parler. Je pense que ça ira mieux.
Oui, oui, je pense, là, vous m'écoutez.
Ah, là, c'est bon, là, c'est bon. Allez-y, docteur Mikaël.
Ok, merci beaucoup. Je salue l'invité, je salue le thème d'aujourd'hui. Effectivement, je suis médecin dans un hôpital de la place en ville de Goma. Tout ce dont l'invité a dit, c'est une réalité qui est sur le terrain. Maintenant, ce que moi, j'avais comme proposition d'abord au gouvernement, c'est quoi? Parmi les personnes victimes des dons du sang, il y a les enfants, il y a les femmes enceintes et aussi les blessés de guerre. C'est tout nous qui vivons ici en province. Vraiment, nous sommes beaucoup en difficulté. Alors, c'est ainsi que je voudrais proposer au gouvernement. S'il y a possibilité au moins de faire un moyen au ministère de la Santé afin qu'on puisse prendre en charge tous ces donneurs du sang dans différentes provinces. Parce que ce qui est sûr, c'est que nous, dans notre hôpital, une poche du sang coûte $27. Pendant qu'à Kiwanja, une poche du sang coûte $25. Et là, vous trouvez une différence pendant que nous tous, nous faisons recours à un seul centre de traitement du sang. Alors, autre chose que je voulais dire, c'est quoi? Oui, on a dit qu'il y a eu augmentation, mais moi, je ne pense pas qu'il y a augmentation, d'autant plus qu'il y a une différence d'autour de 10 ans comme ça. Alors, il serait mieux de voir dans la mesure du possible comment prendre en charge tous ces donneurs du sang d'abord, non seulement par le gouvernement national, mais aussi il faudrait sensibiliser dans des églises que toutes ces personnes-là qui se donnent corps et âme pour sauver les vies humaines, qu'ils puissent aussi bénéficier de quelque chose en termes d'avantage. Alors, par rapport à la question de savoir, est-ce que les médecins demandent du sang? Non, ni les infirmiers ne demandent
de l'argent, pas du sang. De l'argent, de l'argent. On a parlé de l'argent. Vous demandez de l'argent, semble-t-il.
Non, non, non. Le problème, c'est quoi? C'est vrai, à l'hôpital, on demande qu'il y ait du sang. Alors, l'hôpital en soi n'a pas une banque du sang. Il y a un centre spécialisé dans le traitement du sang. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? On dit aux familles d'apporter quelque chose en termes de contribution. Maintenant, c'est l'hôpital qui part acheter du sang. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Ce centre-là aussi fait des études parce que c'est pas la manière dont on a donné les sangs frais que c'est comme ça qu'il sera sauvegardé. Il y a aussi des études qui sont faites et qui demandent assez quand même qu'on puisse demander quelque chose en termes de motivation. Mais les médecins en soi ne demandent pas du sang.
Merci.
Au contraire, c'est les malades. Oui, c'est les malades qui nécessitent le sang. Raison pour laquelle on voudrait que le gouvernement puisse s'impliquer là-dessus pour aider quand même à sauver nos personnes victimes, dont les enfants, les personnes blessées et les femmes enceintes. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Nous devons aider quand même le peuple congolais.
Merci beaucoup, docteur Mikaël Bolingo. Vous a laissé parler parce que c'est une très très bonne contribution. Vous êtes médecin, vous êtes du personnel médical. C'est important d'attendre de suivre vos propositions. Merci d'avoir appelé depuis docteur Mikaël Bolingo, d'avoir appelé depuis Goma. On va accorder une minute à chacun des deux auditeurs qui sont restés. On commence par Thomas Higuain qui nous appelle depuis Bounia. Bonjour Thomas Higuain, vous avez une minute pour contribuer à ce magazine sur les dons bénévoles de sang.
Bonjour, monsieur Marcel, et bonjour à l'invité, et à tous les auditeurs de la radio.
Allez-y, trois buts, parce que vous n'avez qu'une minute, allez-y.
Je parle d'entrée de jeu, les dons bénévoles de ça, c'est un acte noble. Et cela,
les amis l'ont déjà dit, vies, s'il vous plaît, Thomas Higuain, si vous voulez avancer. Mais justement, on l'a déjà dit, s'il vous plaît. Oui.
Je vais en parler. Quant à ce qui concerne maintenant les pistes de solutions pour faire qu'on puisse augmenter le nombre de données bénévoles de ça, à part ce que les amis ont dit, il faut aussi une collaboration étroite avec les institutions ou les ministères de la Santé dans le sens de renforcer les partenariats entre les centres et l'hôpital parce que on peut avoir, il faut qu'on puisse avoir ces renforcements des partenariats entre les centres de collecte de ça et les hôpitaux les hôpitaux pour en fait faciliter le processus de dons de ça parce que s'il n'y a pas cette ces liens là, vous voyez que ça peut poser. Il faut qu'il y ait
voilà, on retient. Il faut renforcer le partenariat entre le ceux qui font les dons des sang et les centres de santé, notamment également sur le programme. Merci Thomas Higuain. Désolé de ne plus assez de temps. On va prendre le tout dernier pour une minute aussi. Franck qui nous appelle depuis Vienne en Autriche. Bonjour Franck.
Bonjour à vous tous au studio. Bonjour à l'invité.
Vous avez aussi une minute. Allez-y.
Oui, merci beaucoup. Je crois que tout a déjà été dit. Il faut peut-être militer pour que la plupart de nos établissements sanitaires, les hôpitaux étatiques et privés, puissent d'abord être subventionnés. Parce que les difficultés relevées émanent aussi de ces manques de subventions. C'est comme ça que quand on arrive avec un malade avant d'être pris en charge, on exige qu'on paye une certaine caution. Et cela ne peut que créer des problèmes parce que pour un établissement sanitaire privé, c'est devenu comme une unité de production. Et quand on n'a pas payé, donc on n'a pas accès aux soins, alors que la vie, les soins, c'est aussi un droit fondamental. Donc, il faut aussi arriver à faire comprendre à nos gouvernants de subventionner les hôpitaux étatiques d'abord, de traiter convenablement le personnel soignant. C'est comme ça que les restes pourraient peut-être aller avec des campagnes de sensibilisation.
Voilà,
mais tant que la plupart de nos établissements ne seront pas subventionnés, je crois que on risquerait encore demain ou après-demain de revenir avec la même thématique.
Merci Franck d'avoir appelé depuis Vienne en Autriche. Cette réaction que je m'avais lue rapidement, on n'a plus assez de temps. C'est Augustin depuis Kananga, donner son sang pour dire qu'on sauve des vies n'est pas nécessairement utile car l'âme d'une personne se trouve dans son sang. En transfusant les sangs, la vie du donneur est transmise dans les sangs du receveur. C'est une confusion. Ceux qui le font veulent s'incarner dans la vie des autres. Il serait important de bien instruire toute personne de prévenir le manque du sang en ayant un repas qui renforce les corps, si qui renforce les sangs, si on te transfère les sangs des sorciers, on te transfère aussi la sorcellerie. C'est des idées reçues qu'on n'aimerait pas entendre les gens raconter. Voilà, vous allez avoir la parole pour conclure déjà rapidement par rapport à ces idées reçues qu'il faut absolument éviter.
Éviter des idées comme ça. Ce sont les idées qui freinent, en fait, les dons bénévoles de sang.
Alors, votre message pour conclure, en une minute pour clore ce magazine.
Non, pour clore ce magazine, c'est juste un petit mot qui a beaucoup plus de sens, comme le thème de cette année l'a si bien dit. Merci à tous les donneurs de sang. C'est tout.
Voilà, merci à tous les donneurs de sang. C'est avec ce petit mot, cette petite phrase de notre invité Paul Kabamba, chargé des formations, recherche et développement au programme national des transfusions sanguines, que nous allons mettre un terme à ce numéro des parents auditeurs. Paul Kabamba, merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement.
Merci beaucoup, merci Martial. À la prochaine.
À la prochaine, avec vous. Fin de ce numéro des parents auditeurs de séjour. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Merci à Pierre Vassinois, qui est à la mise en nom de ce magazine et coordonné, réalisé par Bléchindani et Julie Feza Bongonda. Au micro, c'était Marcel Ngomomba. Le plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro des paroles auditeurs d'ici là. Bon suivi de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.